Bonjour, c'est Pascal Solière et c'est l'épisode 24 de ITcast du 15 janvier 2016. Pour ce premier épisode de l'année 2016, je reçois Franck Mercier et avec lui, nous avons donc fait le tour des nouveautés de Power BI et du SQL Server 2016. Donc dans un premier temps, nous verrons les nouveautés de Power BI au niveau de Power BI Service, donc la partie web, au niveau des infrastructures de cloud hybride, des applications bureaux et des applications mobiles. Dans un deuxième temps, donc les nouveautés de la dernière CTP de SQL Server 2016, avec du chiffrement, avec des tables temporelles et puis des nouveautés également des reporting services. Toutes mes excuses pour la qualité du son qui n'est pas optimale cette semaine. Je promets de faire mieux la prochaine fois. Et tout de suite, on retrouve Franck. Je suis donc ce soir avec Franck Mercier. Salut Franck.
Salut Pascal.
Bonne année.
Et bonne santé.
Et, ouais, et meilleurs voeux à tout le monde. On est donc au bureau Issy-les-Moulineaux. Ça fait 3 mois, je crois, qu'on ne s'est pas parlé de...
Exactement, ça fait 3 mois que tu m'évites. Tu t'entendais pas cela.
Ça fait 3 mois qu'on n'a pas parlé donc de données, de Power BI et de tout ça, et donc c'est l'occasion hein, de reparler de tout ça. Et je crois que tu as beaucoup de nouveautés sur les 3 derniers mois, enfin sur le dernier mois, je crois.
Hein. Exactement, oui. J'ai déjà repris un mois. Il y a déjà pas mal de choses.
Ouais, déjà pas mal de choses. Si on faisait les 3 mois, on en aurait peut-être pour plusieurs heures.
Exactement.
Donc de quoi on va parler ? On va parler de Power BI, et puis je crois dans une deuxième partie plus tard, on va parler de SQL Server
2016.
Donc, bah, attaquons brillamment par Power BI.
Eh bien, écoute, on va y aller. En tout cas, merci de m'inviter dans ton podcast. Comme tu as pu remarquer, tu as vu, je me suis bien habillé, costard-cravate. Ouais. Donc, vous ne le verrez pas
très
à la radio,
mais
voilà, très bien pour la radio. Donc, non, au-delà de ça, effectivement, on va commencer par les nouveautés Power BI.
Et avant d'attaquer dans le dur, si tu nous rappelais, pour les gens comme moi qui oublient de temps en temps de quoi ça parle, Power BI, c'est quoi le principe fondamental de Power BI ?
Alors, déjà, Power BI, c'est un nom marketing dans lequel tu as plusieurs choses. Tu as Power BI Service, qui est la partie web de notre solution, sur laquelle tu peux avoir accès avec app.powerbi.com. Là, tu te connectes.
Donc déjà, BI, c'est Business Intelligence.
Hein. Exactement. Ça peut être d'autres choses, mais dans ce cas-là, c'est Business Intelligence, tout à fait. Mm. Et là, donc, une fois que tu es connecté à Power BI Service, donc la partie web, eh ben, tu vas pouvoir avoir accès à plusieurs choses. Et notamment, il y a 3 grosses parties, si on peut dire ça comme ça. La partie dashboard. Bon, c'est souvent le point d'entrée de tes utilisateurs où là tu vas voir tes indicateurs clés et en fonction de ce qui t'attire l'œil, tu vas cliquer dessus pour faire ce qu'on appelle du drill down, donc descendre dans la donnée et aller au niveau du ou des rapports qui ont constitué cet indicateur. Et enfin la dernière chose, donc dashboard puis rapport et en dessous tu as ce qu'on appelle les datasets, ce qui va être un peu la source de tes rapports et bien sûr de tes dashboards. Ces datasets peuvent venir de sources différentes, de fichiers Excel, de bases de données Azure, mais aussi, on le verra plus tard, de solutions hybrides. Typiquement, si tu as une base Oracle ou une base SQL sur site, tu peux très bien faire des rapports avec des données qui viennent de ces bases de données-là et publier dans Power BI Service et garder la mise à jour. Donc ça, c'est Power BI Service. Et pour créer les rapports, donc j'ai un petit peu évoqué, tu as principalement 2 possibilités. Soit tu es dans Excel 2013 ou 2016 avec les add-in Power BI, qui sont Power Query, Power Pivot, Power View, Power Map.
Ça, c'est un petit peu le Power BI historique. Hein. On avait commencé par ça, d'ailleurs, côté visualisation. Hein,
exactement. Ça avait commencé avec Excel 2010, avec Power Pivot, etc. Mais sauf que des fois, on va chez les clients et puis ils nous disent « Bah oui, mais on n'a pas Excel 2013 ou Excel 2016. » Et donc, c'est pour ça que nous avons sorti un autre client qui s'appelle Power BI Desktop, qui lui est gratuit, qui s'installe aussi sur ton poste de travail. C'est un client riche et qui te permet de faire l'équivalent de Power Query et aussi tout Power View, avec en plus la particularité par rapport à Excel, sinon ça serait trop simple, d'avoir des visualisations en plus. Donc, c'est-à-dire que tu as beaucoup plus de visualisation Power View dans Power BI Desktop que dans Excel. Et cerise sur le gâteau, un développeur peut développer ses propres visualisations et les rajouter. Et d'ailleurs, aujourd'hui, dans app.powerbi.com/visuals, il y a tout un tas de nouveaux graphiques qui ont été publiés par des développeurs de la communauté. Parce que c'est complètement ouvert.
D'accord.
Et il y a des choses super intéressantes, comme le diagramme Sankey, on va en parler tout à l'heure.
Ok. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau récemment dans Power BI, dans notre petit monde de Power BI? notamment dans Power BI Service.
Alors effectivement, on va commencer, j'essaie de découper un petit peu pour essayer d'être le plus clair possible. Donc effectivement, on va commencer par Power BI Service. Power BI Service, donc je répète, app.powerbi.com, c'est la partie web. Et donc là, il y a tout un tas de nouvelles choses. Comme ça, peut-être un peu mis en vrac dans un premier temps, mais la possibilité, donc je parlais de l'accès aux données.
Oui.
L'accès aux données, comme je disais tout à l'heure, ça pouvait se faire par, tu vas chercher ton fichier Excel, une base de données, mais pour faciliter les choses, notamment si tu veux aller chercher des informations venant de ton Google Analytics, par exemple, si tu veux analyser le trafic sur ton site de podcast, si tu as un Google Analytics, ça peut descendre directement dans le Power BI via ce qu'on appelle des content packs. C'est-à-dire qu'on va te donner quelque chose de déjà packagé, et tu vas cliquer dessus, tu vas juste rentrer tes chaînes de connexion vers Google Analytics, et puis ça va te créer pour toi un dashboard, un rapport, et bien sûr, la chaîne de connexion qui va bien vers Google Analytics. Et à partir de ça, soit tu te contentes de ce qu'on t'a donné, soit tu crées toi-même ton propre rapport ou ton propre dashboard, etc.
Donc des content packs qui sont prévu pour se connecter à des applications cloud,
des applications SaaS, web, cloud, SaaS, ouais, voilà, donc Google Analytics, Salesforce, Microsoft Dynamics CRM, et là donc,
c'est SAP,
pas encore, mais ça, il y a Sage qui est arrivé, donc il y en a deux nouveaux, qui est Office 365 MON, donc pour tout ce qui est monitoring de ton Office 365, et puis un petit connecteur d'un petit français, donc AT Internet, qui a publié son propre connecteur, ce qui fait que des éditeurs, des ISV peuvent aussi proposer leur propre, bien entendu, content pack dans le service Power BI. Alors, donc il y a eu pas mal de choses au niveau des content packs, surtout que tu as la possibilité de les créer, tes content packs. Et donc, tu peux faire toi-même, tu dis, bah tiens, j'ai un content pack dans lequel je vais mettre ce dashboard-là, ces deux ou trois rapports et cette source de données. Jusqu'à maintenant, quand tu modifiais un rapport de ce content pack, tu étais aussi obligé d'aller modifier un petit composant de ton dashboard pour que tout se mette à jour. C'était un peu ballot. Donc, on a corrigé ça, et ce qui fait que maintenant, tu as juste à republier tes rapports et à republier ton content pack sans être obligé de repasser par l'étape dashboard. C'est petite nouveauté, mais qui, dans la vie de tous les jours, ça rend bien des services. Tu n'es pas obligé d'aller modifier ton dashboard alors que normalement, tu n'as pas à le faire.
Donc, dans un content pack, d'après ce que je comprends, il n'y a pas que le connecteur vers une source de données spécifique, une application ou autre. Mais il y a aussi des modèles de rapports.
Exactement. Tu as un modèle de dashboard et un ou plusieurs modèles de rapports déjà prêts à être consommés.
D'où le nom.
Voilà.
C'est un pack.
Voilà.
Un pack complet plus tout. Présentation.
Quoi. Plus rapport, plus dashboard. Et après, bien sûr, tu peux les modifier à ta guise. Il y a là-dessus, il n'y a aucun problème.
Ok.
Donc, si on reste toujours dans les données, ce qui est intéressant aussi, c'est que maintenant, on a rajouté une connexion vers les SharePoint Team Site. Pour ça, on ne l'avait pas avant, donc tu as des fichiers Excel sur ton SharePoint. Bon, tu peux aller les chercher. Voilà, ça c'était beaucoup demandé. D'ailleurs, beaucoup demandé via les User Voice. Donc si jamais vous souhaitez voir une nouvelle fonctionnalité arriver dans Power BI Service ou Power BI Desktop, par exemple, vous pouvez aller voter sur le User Voice lié à Power BI. Il dit, ouais, j'aimerais avoir telle fonctionnalité. Et puis, c'est quelque chose qui est très regardé et l'intégration se fait plutôt bien. Toujours en termes d'intégration de données, jusqu'à maintenant, Power BI pouvait intégrer par exemple les fichiers Excel, mais on ne récupérait pas les tableaux. Maintenant, on a la possibilité, si ton fichier Excel est stocké dans un OneDrive, de ne plus importer les données comme on fait, mais tout simplement d'afficher le fichier Excel dans Power BI Service. Donc tu récupères tout ce que tu as fait dans ton Excel, tu récupères le tableau à la forme Excel comme tu as l'habitude de le voir, une sorte d'Excel online si tu veux, mais directement dans Power BI Service. Et d'accord. Tu pourras même en plus afficher ces composants sur ton dashboard si tu le désires. Autre petite chose qu'on nous avait demandé, ça aussi ça a l'air de rien, c'est l'état du service Power BI. Donc dans la partie centrale de l'administration quand tu es dans Power BI Service hein, donc on est complètement on a la même philosophie qu'un Office 365. Quand tu vas en haut à gauche, tu cliques sur le petit bouton, t'as toutes les applications auxquelles tu as le droit qui arrivent, Word, Excel et tout, et puis t'as aussi l'administration. Et ben, quand tu cliques dessus, donc tu arrives sur ta page où tu vois aussi l'état des services, et maintenant tu vois l'état de Power BI. C'était pas avant, maintenant ça y est, donc c'est arrivé il y a un petit mois, ça à peu près, peut-être un peu plus. Mais ça, c'est bien sympa. Donc tout ça, c'était rapidement sur la mise à jour des content packs, les nouveaux content packs, l'intégration des fichiers Excel depuis un OneDrive, etc. Mais surtout, les choses qu'on nous demande beaucoup, c'est dans le service lui-même. comment représenter nos données. Lorsque Power BI Service est arrivé, il y avait déjà des visualisations disponibles, hein, donc des graphes assez classiques, et bah, très vite on nous a dit bah, ça serait bien de pouvoir intégrer des fichiers SVG, donc des fichiers vectoriels pour faire des cartes sur lesquelles on peut cliquer pour filtrer les autres rapports. Typiquement, j'ai en tête des rayons de magasin ou des plans d'un mall ou ce genre de choses, ou d'un stade. Et donc l'idée, c'est de pouvoir utiliser ces fichiers SVG, y mettre des propriétés et lier ces propriétés à ton dataset, ce qui va permettre, par exemple, si je clique sur par exemple, j'ai le Parc des Princes, et si je clique sur un endroit du Parc des Princes, bah, boum, ça va filtrer mon rapport pour l'endroit où j'ai cliqué sur le Parc des Princes.
D'accord.
Et ça, donc ces nouveaux graphiques sont disponibles sur le lien qu'on disait tout à l'heure, donc app.powerbi.com/visual. Un dont j'ai envie de parler, qu'on nous a beaucoup demandé, qu'on n'avait pas, mais qui est arrivé, c'est le Sankey. Ça permet... Qu'est-ce que c'est ça, le Sankey?
Sankey. S-A-N-K-E-Y.
Exactement. Eh bien, ça permet tout simplement de visualiser les flots, le flux que tu as entre une ou plusieurs dimensions. Typiquement, tu vas mettre... si tu fais un parcours client, tu dis, bah là, je sais pas, j'ai un client qui va de l'espace A à l'espace B. Donc, et là, tu peux voir le nombre de clients qui vont entre ces deux espaces, et là, ça va te faire une sorte des vagues de flots entre ces deux ou n dimensions. C'est des choses qu'on nous demande souvent. Je pense que je vais te montrer ce que c'est, parce que tu me regardes avec des yeux tout bizarres. Donc, je vais te montrer ce que c'est. Tu vas dire.
On mettra un pointeur peut-être si on
mais
peut.
Bien entendu, de toute façon, il y a
également des gens vers des exemples.
Exactement. Donc, pour ceux que ça parle, on a les Sankey. Pour ceux que ça parle pas, sachez, c'est vachement bien, c'est très demandé. Et notamment, si vous voulez voir des flux et des correspondances entre des dimensions, c'est vraiment pas mal. Donc, nous, on l'avait fait donc, pour des parcours des gens qui passent entre la borne A, B et C de plusieurs bornes Wi-Fi. Voir le nombre de personnes qui passent directement de la borne A à la borne C ou passant par la borne B, ce genre de choses par exemple que tu peux faire.
Okay.
Donc il y a les jauges, les entonnoirs horizontaux, ce genre de choses, bon ça, ça arrive. Ce qui est super intéressant avec ces graphiques, c'est que comme utilisateur, tu peux développer toi-même ta propre visualisation et la publier sur Visuals et donc partager avec la communauté.
Cool.
Alors, si on continue côté Power BI Service, et si on se focalise, là je te donnais un peu les nouveautés qu'il y avait au sens large du terme, mais si on va un peu plus au niveau du dashboard, donc on a la possibilité, donc un dashboard est composé de tuiles. Donc je la refais, donc quand tu arrives sur ton dashboard, en fait tu as plein de tuiles, donc ça les tuiles ça te parle, hein.
Oui.
Et là tu as plein de tuiles qui vont te représenter une partie d'un rapport sous-jacent à ce dashboard. Cette tuile-là, maintenant, tu peux cliquer dessus et avoir des options. Avant, quand tu cliquais dessus, bah, ça te ramenait vers le rapport. Là, tu peux dire, bah, tu cliques sur une partie, donc tu as trois petits points, tu cliques dessus. Et tu dis, bah, les données qui ont servi à construire l'indicateur de cette tuile, j'ai envie de l'importer sur mon poste de travail au format CSV.
D'accord.
Par exemple, c'est un petit tableau. Ah, tiens, j'aimerais récupérer les données pour faire, je sais pas moi, un petit reporting, moi, en local. Tu cliques dessus, boum, tu descends le fichier CSV à partir de cette tuile. Et ça, c'est plutôt pas mal. On nous a demandé aussi très souvent, sur mon dashboard, j'aimerais pouvoir rajouter des images ou du texte, ce genre de choses. Et ben, on a rajouté la possibilité maintenant de rajouter des widgets. Et donc, tu peux très bien maintenant insérer du texte un peu comme tu as envie, ou un commentaire, ou une image, etc. Ça, tu peux le faire. Ça a l'air de rien, encore une fois, ce que je dis, mais c'est des choses, si jamais tu veux agrémenter un rapport, rajouter des commentaires, ce genre de choses, c'est plutôt pas mal. Je sais, nous sommes au 21e siècle.
Oui, mais tout le monde n'y est pas.
Apparemment. Mmh. Et il y a deux choses que des fois que je peux comprendre, et on nous a beaucoup demandé de pouvoir imprimer nos dashboards. Donc ça y est, c'est arrivé, on peut le faire.
Donc si on est coincé dans les années 90, on peut imprimer nos
exactement.
Dashboards.
Exactement,
voilà. Favorite.
Là, voilà, donc.
Non, mais je plaisante, mais ça peut être très utile dans certains cas.
Et c'est encore impressionnant le nombre de demandes qu'on a pouvoir imprimer son dashboard. Donc c'est encore beaucoup demandé. Donc maintenant,
imprimer voilà. Vers du papier ou ça peut être imprimé également vers un fichier PDF ou...
C'est une bonne question, ce que je n'ai pas regardé. Donc,
de toute façon, le système peut le faire. Donc,
voilà, donc,
Windows 10 peut le faire maintenant. Donc, c'est tout à fait possible.
Donc c'est là, effectivement, c'est un bon point qu'il faut que je regarde. Autre chose aussi, donc comme je disais tout à l'heure, donc Power BI Service, c'est des dashboards, c'est des rapports, c'est des datasets. Ces datasets, tu peux planifier des mises à jour automatiques si tu le désires, ou des mises à jour manuelles, hein, comme tu veux. Et bah, c'est bien, hein, tu as ton dashboard, les mises à jour sont faites, mais jusqu'à maintenant, on n'avait pas l'information de quand a été faite la dernière mise à jour. Maintenant, d'accord, c'est une petite info qui arrive. Voilà, ton dashboard, les dernières mises à jour ont été faites tel jour ou à telle heure. Donc maintenant, tu le sais. Petit détail, mais c'est encore une fois des choses qu'on nous demandait assez régulièrement. Un truc qui est vraiment bien, c'est la possibilité d'avoir les tooltips au niveau des dashboards. Tu as juste à déplacer ta souris sur un indicateur pour qu'il te sorte sur un tooltip des informations déjà détaillées sans être obligé de rentrer dans le rapport sous-jacent. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, c'est des choses qu'on nous avait demandé, qu'on n'avait pas et qui sont arrivées. Donc,
c'est beaucoup de petites améliorations qui facilitent la vie de tous les jours.
C'est tous ces petits riens qui font ce tout, comme on aime bien.
Exactement.
Et voilà, donc... possibilité donc de faire des mises à jour de toutes les tuiles d'un dashboard, ce que je disais tout à l'heure.
Le F5
quelque part, oui, mais surtout ce que je voulais dire, c'est qu'un dashboard peut avoir des tuiles qui viennent de plusieurs rapports. Donc avant, il fallait, pour le rapport spécifique, rafraîchir le rapport, qu'elle allait mettre à jour la partie de cette dashboard qui était liée. Là, tu peux dire, voilà, je veux rafraîchir le dashboard, et c'est lui qui se débrouille pour aller faire les mises à jour sur l'ensemble des rapports sous-jacents. Ça aussi, c'est plutôt pas mal. Et puis, tu as aussi la possibilité, alors là, on est à la frontière entre le dashboard et le rapport. Quand tu es dans un rapport jusqu'à maintenant, pourquoi jusqu'à la mise à jour dont j'ai évoqué dans quelques secondes, tu étais dans un rapport, tu choisissais un élément de ce rapport, tu dis, je l'épingle sur mon dashboard.
Oui.
Et là, tu peux dire, j'épingle, pouf, tout mon rapport direct dans mon dashboard. Donc, comme ça, tout est épinglé et en plus, tu vas pouvoir garder l'interactivité directement dans ton dashboard. Et ça, c'est plutôt pas mal.
D'accord.
Donc ça, c'est les grosses nouveautés qu'il y a eu côté dashboard. Si maintenant, on va côté rapport. Et ben, dans les rapports maintenant, tu as le support des KPI, des Key Performance Indicators, c'est les indicateurs que tu vois rouge, vert, jaune, notamment sur les scorecards. Des choses qui te parlent.
Oui, on connaît bien.
On connaît bien les scorecards, non ?
Surtout le vert.
Oui, il faut qu'on se débrouille pour que ce soit vert, on va dire. Et des images, ce qui fait, parce que dans Power BI Desktop ou Excel, on pouvait faire des beaux rapports, intégrer des images sous format URL. Tu pouvais très bien dire, bah voilà, j'ai mon catalogue produit, et puis quelque part sur un site web, j'ai les images de ces produits. Tu mettais une URL sur la ligne du nom de ton produit. Je ne sais pas si je prends un exemple, ukulélé fait en bidon. Et bah, tu peux avoir un lien vers ton ukulélé fait en bidon. Et puis après, quand tu fais un rapport, tu dis ce champ qui a mon URL, c'est une URL de type image. Donc je l'ai fait assez simple. Et ce qui fait que le rapport comprend que cette URL, il doit l'interpréter comme une image, et boum, il t'affiche l'image.
Et le fichier.
Super bien dans Excel, pour avoir des stops, pour avoir des services, ça ne savait pas le faire. Maintenant, il sait le faire. Et chose aussi intéressante, c'est que bah, quand tu as fait un beau reporting avec tes images, tu peux même l'épingler sur ton dashboard, ça fonctionne aussi.
Bon, super pratique.
Bah surtout si tu t'enquiquines à faire un beau rapport, c'est dommage qu'une fois que tu l'as publié, tu ne récupères pas tout ça. Donc là, maintenant, ça le fait bien. On pouvait imprimer les dashboards, on peut imprimer les rapports.
C'est la moindre des choses.
On a déjà fait des blagues, hein, mais là, non, là, on était cohérent jusqu'au bout. Donc là, tout nickel. Alors, possibilité d'exporter des données d'un visuel du rapport, hein, comme tout à
pareil,
l'heure.
CSV, pareil.
Exactement. Tu peux afficher des images dans les segments. Alors, je viens de te dire ça, tu te dis de quoi ça s'agit ? De qu'est-ce qu'il me dit, là ? Un segment, en fait, c'est aussi ce qu'on appelle un slicer. C'est-à-dire que quand tu fais un rapport, là encore, tu me regardes avec des yeux bizarres. Quand tu fais, par exemple, tu fais un tableau croix dynamique, tu as l'ensemble de tes champs sur le côté, le nom de le produit, pays, etc. Tu peux mettre le produit et les ventes dans un tableau croisé dynamique. Tu as tous tes produits, ton ukulélé, Pascal Solier en a acheté 27, tu vois bien. Et bah, tu peux très bien dire, tu prends la partie pays, tu la mets pas dans ton tableau croisé dynamique, mais tu la mets sous filtre, sous forme de bouton. Et ce qui fait que tu cliques sur France, et ça va filtrer ton tableau. Tu cliques sur Espagne, ça filtre ton tableau, etc. C'est ce qu'on appelle un segment ou un slicer en anglais. Et bah, maintenant, dans les slicers, tu peux mettre des images, typiquement les drapeaux des pays, et tu récupères ça. Comme ça, tu fais un super
petite amélioration de forme qui...
Ah bah oui, mais c'est super, comme ça t'arrive, boum, ça, au niveau visuel, ça jette un peu, tu vois les différents drapeaux, clac, tu cliques, et ça te filtre l'ensemble de ton rapport.
Et pour un chef, ça marche toujours. Plus c'est clair, des images, plus c'est simple à comprendre.
Plus c'est simple, tu l'as bien dit, ouais, exactement. Surtout pour un chef. N+1, on parle, d'accord.
On pense jamais assez à ces chefs.
Exactement. Dans les rapports, Par défaut, tu as des interactions. En fait, tu vas, comme je disais tout à l'heure, tu avais tes produits, tes pays, tes ventes, tu peux croiser. Si tu vas faire un graphique à barre avec tes pays et tes ventes, tu vas faire un graphique, je sais pas moi, un camembert. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas les camemberts, mais tu peux quand même faire un camembert avec tes produits. Et ben, si tu cliques sur une partie du camembert, ça va te filtrer automatiquement l'autre partie de ton rapport et ça va te mettre, voilà, pour les ukulélés, voilà comment ça s'est vendu dans les différents pays en faisant les filtres automatiques. Ben maintenant, tu peux définir les interactions entre les différents comment ça s'appelle? Entre les différents
Éléments de
éléments, tu dis, ah, il y a une interaction, il n'y en a pas, etc. Donc tu peux déverrouiller ça si tu veux. Donc voilà pour les différentes nouveautés côté Power BI Service. Donc là, on parle bien service. Ce qui fait que donc, voilà, c'est un service à nous qui est complètement cohérent avec l'ensemble de la suite et aussi notamment avec Windows 10. Pourquoi je dis ça? Parce que dans le service, dans Power BI Service toujours, quand tu vas créer un rapport, en plus tu vas pouvoir choisir la taille de ton rapport. Si tu le veux en 16 neuvième, si tu le veux en horizontal, en vertical, ou si tu le veux dans un format Cortana. Tu peux très bien dire à Power BI Service, ben donne-moi un espace d'édition qui est de taille Cortana. Donc tu vas te retrouver avec une sorte de rectangle horizontal.
Là, tu me montres, tu me fais un signe plutôt vertical, mais.
Excuse-moi, oui, plutôt vertical, voilà. Et un peu comme si tu lançais ton Cortana sur ton Windows 10. Et dans cet espace-là, tu vas faire ton rapport comme tu as l'habitude de faire. Tes différents graphiques, tu vas chercher les éléments de ton dataset, tu fais tes rapports et tout, nana. Et
Donc, l'utilisateur pose des questions.
Attends, j'y suis pas là,
D'accord.
tu vas trop vite là.
Oula.
Changeons, t'es à fond là, t'es emballé là. Tu es dans ton Power BI Service, tac, tac, tu fais ton rapport, tu dis, tu vas dans le page layout, et tu dis, je le veux format Cortana, nanana. Après, tu vas au niveau du dataset qui t'a servi de faire le rapport, et tu vas cliquer intégrer ce rapport dans Cortana. Juste une case à cocher.
OK.
Sur ton Windows 10, tu vas être dans Cortana, tu vas bien t'assurer que les services liés, ton Office 365, il est bien lié avec le même compte avec lequel tu as fait ton rapport Power BI, bien entendu. Et après, bah, tu poses ta question, montre-moi le nombre d'événements sur la dernière année. Et pouf, il va directement aller chercher le rapport que tu as désigné dans Power BI Service, ou même avec un Power BI Desktop, bien sûr, ça fonctionne, et il te le redescend dans ton Cortana. Mieux, tu gardes l'interactivité, ce qui fait que ton rapport descend au bon format Cortana Layout qui va bien, et tu vas pouvoir cliquer sur les différents éléments pour filtrer ton rapport. Et bien entendu, pilotable à la voix. Tu peux appeler ton rapport à la voix. Hey Cortana, montre-moi l'évolution des ventes de ukulélé sur les 12 derniers mois et on verra tous les ukulélés que tu as achetés ces 12 derniers mois.
Et donc, ceux qui descendent dans Cortana, ce sont des rapports, hein, c'est ça.
C'est
Ce sont des rapports que tu vas
le
adapter au
rapport
format
directement, il descend, voilà, parce qu'il est adapté au bon format qui va bien et ça descend. Et tu gardes l'interactivité. C'est carrément, c'est fort. Il y a un blog sur le sujet qui explique comment le faire. Le seul truc, si jamais vous voulez jouer avec, il faut le paramètre au niveau du dataset. Ça nécessite la version 15.11 de Windows. D'accord, ça c'est
Donc
important.
la mise à jour de novembre.
Exactement. Et surtout au niveau de Cortana, de bien lier le service Office 365, parce que par défaut, je crois qu'il faut le définir. Donc on va dans les paramètres de Cortana, lier les comptes. Il y a plein de comptes, il y a LinkedIn, tout ça. Et là, tu dis Office 365 et tu mets le compte qui va bien.
D'accord.
Et
On ne
ça,
soupçonne pas le potentiel de Cortana.
et ça marche. Bah Cortana, on l'a partout. Hein. Cortana Analytics, Cortana dans Power BI. C'est vraiment pas mal. On a beaucoup, beaucoup de demandes. Ok, c'est très bien. C'est un service qui est dans le cloud. T'es comme moi, t'as entendu parler du grand méchant cloud. Ça fait peur, tout ça, nanan. Power BI, ça m'intéresse bien, mais je veux être sûr que mes données. Ou du moins que mes données restent sur site ou que très très peu de données sortent. D'accord?
Oui.
Power BI Service propose déjà des passerelles pour le faire. Mais depuis quelques semaines, on a sorti ce qu'on appelle la gateway. Donc ça existait depuis longtemps, la gateway, mais la gateway Enterprise. D'accord? C'est vraiment quelque chose, c'est une passerelle qui va permettre. Lorsque des rapports ont été créés avec des sources de données se trouvant sur site, une base SQL, Oracle ou un cube. Et quand je dis cube, je pense que tu vas me poser la question suivante. Quel type de cube?
Mais quel type de cube, Franck?
Eh bien, les deux. Merci de poser la question, parce que j'attendais déjà les...
Multidimensionnel ou tabulaire?
Eh bien, les deux.
Les deux.
Les deux, mon capitaine. Et donc, je dis ça, parce qu'avant qu'on se prenne des scuds, ouais, c'est que le tabulaire, tout ça, nanana. Non, là, on fait les deux. Et en plus, on pourra supporter ce qu'on appelle le direct query. C'est-à-dire qu'on va pas importer les données dans le service. C'est le service qui, lorsque tu vas créer un rapport ou tu vas demander des informations sur le rapport, va envoyer les requêtes sur les serveurs. Ça va travailler et juste le résultat est retourné. Donc les données restent chez toi. Alors, pour ceux qui connaissent un peu la solution, ils vont dire, ouais, il y avait déjà Power BI Personal, ce truc. Effectivement, Power BI Personal, c'était pour son cas d'usage personnel. Mm-hmm. Voilà, tu installes sur ton poste de travail, là, puis tu fais ta tambouille, etc. Là, c'est vraiment prévu entreprise, d'accord ? Dans le sens où on pourra avoir un management centralisé des sources de données. Tu vois, il va y avoir un administrateur qui va pouvoir dire, voilà, toutes mes sources de données sont là, il va pouvoir les gérer. Il va aussi, ce connecteur va pouvoir supporter un très grand nombre d'utilisateurs que la Gateway Personal ne savait pas faire. Possibilité d'avoir plusieurs administrateurs. Et question que vous allez sûrement me poser, parce que toi, tu es plus dans les systèmes Windows et tout, on va supporter les groupes AD, Active Directory. Donc, d'accord. Ça, c'est un truc que j'ai
donc,
regardé.
Niveau, en termes de sécurité, ouais. Pouvoir faire de.
Dans la version actuelle, ça y est pas encore, mais ça va arriver. Ça, c'est prévu. Donc, comme je le disais, ça permet le contrôle d'accès donc, à de nombreuses sources de données. Et surtout, ce sont des connexions live. Donc, vraiment direct query, hein, ce que je disais tout à l'heure. Hein. C'est pas de l'import, c'est direct query. SQL Server, bien entendu. Les cubes, tu l'as très bien mentionné, multidimensionnel. D'ailleurs, je suis super content que tu aies retenu les termes, oui. Ça me fait très plaisir. Multidimensionnel et tabulaire. En fait, tu as trop le swag hein, sur la BI, tu devrais venir avec moi. Et aussi, on a rajouté une source qui s'appelle SAP HANA. Donc, il n'y a pas que le monde Microsoft qui est supporté.
Donc, SAP.
SAP. Et là, tu as bien fait de le préciser, moi je dis SAP, mais c'est pas la SAP les fringues, hein. SAP, SAP est le.
SAP, oui. Cool. Donc, une solution vraiment hybride. Pour les environnements hybrides.
Exactement.
Où on peut garder, si je résume, hein, la maîtrise de ses données à l'intérieur de son périmètre.
Exactement.
Tout en permettant l'analyse depuis Power BI Service.
Alors, une petite précision, si je peux me permettre, c'est ceux qui connaissent un peu la solution vont sûrement se dire, mais il y a déjà un connecteur qui existe pour analyse services tabulaire. Il y a le connecteur qui existe déjà. Théoriquement, celui-ci devrait être intégré dans le Gateway Enterprise.
Ok. Et donc on a fait Power BI Service, on a fait Power BI Gateway Enterprise, le cloud hybride. Troisième domaine dans lequel il y a pas mal de nouveautés, le desktop. Donc cette fameuse application dont tu parlais au tout début.
Exactement.
Tout à l'heure.
Cette application donc, est un client riche, qui est gratuit. Que tu peux télécharger depuis Power BI Service ou même sur le site de Microsoft, sur le download, hein, peu importe. Et lui, va te permettre donc d'aller chercher la donnée donc, à peu près n'importe où elle se trouve avec les connecteurs qu'on va fournir. Donc c'est, mm-hmm. c'est Power Query quelque part. Et une fois que tu as récupéré tes données, tu vas pouvoir les modéliser, créer ta couche sémantique, rajouter des indicateurs, tout ça, blablabla. Et puis dessus, tu pourras faire des rapports interactifs à la Power View. Comme je disais tout à l'heure, Power BI Desktop sera aussi intégré toutes les visualisations qui viennent du site Visual. Ce que tu auras développé, ça aussi les intégrer de la même manière que Power BI Service, bien entendu. Donc effectivement, il y a beaucoup de nouveautés, principalement autour de la présentation de la donnée. Hein. Donc typiquement, tu pourras formater un peu tes étiquettes de données. Tu pourras choisir voilà, si tu veux afficher en gras, en rouge, et tout, etc., tes données. Ça a l'air de rien, mais sur le reporting, la cosmétique, c'est assez important. Autre chose qui a l'air tout bête, tu peux définir aussi les décimales sur les nombres que tu vas afficher sur tes rapports.
Oui, donc c'est de la forme toute bête.
C'est de la forme toute bête, mais il y a...
Ça manquait un peu, quoi.
Bah, ça manquait carrément parce que c'est... Ça paraît tellement évident qu'au bout d'un moment, on avait les personnes chez qui j'allais faire des rapports et faisaient hop, et au bout d'un moment, ça serait bien si on pouvait définir un décimal. Bah, on ne savait pas faire, mais maintenant, voilà, on sait faire.
Comme la taille du texte.
Voilà, c'est pour ça. Donc, ça aussi, possibilité niveaux, de changer la taille du texte, les fonctions d'alignement. Un peu comme dans Word, tu sais, Word, Excel, tu avais une mise en forme quelque part, tu avais un petit outil, le Painter, tu prenais une mise en forme et tu étais là. Voilà, et bien ça aussi, c'est implémenté. Tu peux ajouter des lignes de référence s'il y a besoin. Et puis, comme je disais tout à l'heure, hein, que ce soit dans Power BI.
Ce fameux layout format
pour Cortana. Donc, même avec Power BI Desktop, tu peux déjà designer ton rapport pour qu'il soit compatible avec Cortana dans sa restitution. Là, on va une autre nouveauté, un gros truc. Là, on va plus parler ce qu'on appelle aujourd'hui les data scientists. D'accord. Donc ceux qui savent manipuler la donnée pour en extraire de l'intelligence, faire des statistiques, ce genre de choses. L'intégration de R. R, ça ne te parle pas. R, ça ne me parlait pas il y a encore quelques mois. C'est un langage de statisticien justement pour travailler les données, appliquer des algorithmes, ce genre de choses. Et encore, je ne suis pas du tout expert dessus, hein, j'ai juste vu comment ça marchait. Mais maintenant, c'est intégré avec Power BI Desktop. C'est-à-dire que dans Power BI Desktop, tu vas pouvoir rajouter un composant R comme tu rajoutes un diagramme en barre, par exemple, ou une courbe, et tu vas pouvoir dire...
C'est pas l'air qu'on respire, hein, c'est la lettre R.
C'est la lettre R, exactement, ouais, t'as bien fait.
Non, je rigole, mais...
D'ailleurs, au-dessus de la porte, il y a écrit Andy R, mais ça n'a rien à voir. Bon, c'est même pas vrai, R. Mais... donc R, c'est bien la lettre R en majuscule, et qui... C'est un petit module qui est dans Power BI Desktop, tu le rajoutes comme si tu rajoutais un graphe de visualisation, et là tu vas pouvoir y passer ton script R. Tu vas pouvoir lui dire voilà, tu vas définir ton dataset, tu veux un résultat. Encore une fois, je ne connais pas très bien le langage, mais tu vas pouvoir mettre ton script R dedans, et qu'est-ce qu'il va faire Power BI Desktop, parce qu'il n'a pas le moteur R intégré, va aller invoquer donc RStudio ou un équivalent qui est installé sur ton poste de travail. Exécuter justement le code R que tu as passé, il récupère le résultat et à partir de là, il va te faire la datavise.
Ok.
Donc, c'est cette intégration. Si jamais toi, tu veux jouer avec et que tu installes Power BI Desktop, tu ne vas pas le trouver. Pourquoi ? Parce qu'il faut que tu ailles dans les options de Power BI Desktop et que tu actives les Preview Features dans le menu Options. Et là, tu choisis ce que tu veux afficher.
Donc, c'est une version préliminaire pour l'instant.
Voilà, donc les préliminaires, c'est très important. Et en plus, on a mis justement la navigation des hiérarchies du cube qui fait partie aussi des versions préliminaires. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de préliminaires. Donc, voilà, pour pas vous déplaire. Ça rime et tout, nickel. Bien sûr, je parlais tout à l'heure de l'ajout de nouveaux visuels.
Oui.
Donc, en fait, c'est un peu de la redite. Hein, donc... tu peux aller chercher sur Visual les visuals qui sont déjà présents ou même tu peux développer toi-même tes propres visuels. Et tu peux, alors ça c'est pas mal, tu peux ajouter dans le modèle de données des informations par copier-coller. Admettons tes Power BI Desktop. Ok, tu as fait une connexion vers une base SQL Server. Et puis dans cette base de SQL Server, tu récupères, je sais pas, moi on va dire... les codes des sociétés en bourse, t'as que ça. Et par rapport à ces codes, je sais plus comment ça s'appelle, ces codes bourse, c'est par exemple pour Microsoft, MSFT, ce genre de choses, ouais. T'aimerais avoir le nom associé. Et toi, tu vas dans un fichier Excel. Ouais. Donc tu as le code bourse plus le nom et tout ça. Bah, tu fais un copier-coller de ça, tu vas dans ton modèle Power Pivot et tu fais coller. Et pouf, il va te copier les informations directement dans ton modèle et tu pourras faire tes liaisons. On pouvait le faire avec Power Pivot, on pouvait pas le faire avec Power BI Desktop, maintenant c'est bon, on peut le faire.
D'accord.
Donc ça te permet d'enrichir des données qui viennent d'informations un peu en enterprise, une base de données, avec si bien de ton fichier Excel.
De façon simple.
Super simple. On pouvait toujours le faire. Hein. On allait se reconnecter avec le connecteur Power Query. J'attaque mon fichier Excel. Je prends tel onglet, tel truc, tel machin. Là, tu fais tac, tac, copier-coller et c'est intégré.
Bon.
Toujours dans Power BI Desktop. Donc, on parlait tout à l'heure, bah justement, j'ai un peu anticipé. Pour Analysis Services multidimensionnel, on supporte la hiérarchie. Hein, donc, quand tu as fait des hiérarchies sur tes dimensions, typiquement sur les périodes de temps, etc., et ben, tu peux maintenant, ça les supporte. Encore une fois, ça fait partie des préliminaires qu'il faut aller activer dans les options.
Toujours de la preview, ok. Mm-hmm. Et entre parenthèses, c'est une nouvelle version pour BI Desktop qui date de quand à peu près qui est ancienne
Non, elle est assez récente, je crois qu'elle est arrivée pendant les vacances. Donc d'accord. En fait, si tu télécharges Power BI Desktop voilà, aujourd'hui, tu auras tout ce que je suis en train de te dire et peut-être même un peu plus s'il y a eu des nouveautés entre-temps. On avait un connecteur ODBC, ok, très bien. Là, il y a une toute petite nouveauté, c'est qu'il va te faire, il va te proposer une liste déroulante avec toutes les différents ADSN qui sont présents sur le poste. Là, c'est ballot. Hein, comme
j'ai oublié de le faire.
Voilà.
C'est ballot.
Mais bon, ils ont corrigé. Voilà, donc, c'est pas mal. Ah oui, au truc avec le connecteur SSV, maintenant directement dans l'interface, tu peux définir quel séparateur.
Le CSV, c'est toujours un souci quand on n'est pas dans la bonne locale.
C'est ça, bon maintenant langage, tu peux choisir. Parce que là, avant, il fallait bidouiller le code M, tout ça. Ah, un autre langage M, c'est le code de Power Query. Tu pouvais aller le bidouiller après. Maintenant, tu vas choisir dans l'interface le séparateur, et ça aussi, c'est nickel. Et puis il y a des nouveaux connecteurs qui sont arrivés, dont il y en a que je ne connaissais même pas. Alors ils sont tous en version préliminaire, comme tu dis. Donc il y a la version Stripe, il y a le connecteur vers Stripe. C'est une solution de paiement en ligne, donc j'ai découvert, hein, je ne savais pas, donc voilà. Smartsheet, c'est pareil, c'est une solution de collaboration et de gestion de travail. Alors nous, on a Planner, on a la version plus musclée qui est Project Online, et puis sinon il y a Smartsheet, c'est un peu...
Smartsheet.
Yeah, Smartsheet, il faut faire attention à comment on prononce...
Ouais. S'il y a des Anglais qui nous écoutent,
on ne sait jamais. Un connecteur vers notre base NoSQL, donc Microsoft Azure DocumentDB, et puis bien sûr vers Azure Data Lake Store.
Le fameux Data Lake.
Exactement, donc ça peut être...
Tu nous parlais la dernière fois.
Exactement, voilà. Donc ça renvoie au podcast qu'on a fait la dernière fois. Donc il y a eu pas mal de choses. Il y a déjà eu pas mal de choses.
Le desktop, dernier mot, c'est que sous Windows ?
Aujourd'hui, oui.
D'accord.
Aujourd'hui, oui. Ce qui n'est pas le cas. Bonne transition, Pascal, pour les applications mobiles.
Eh oui.
Parce que bien sûr, la question qu'on a, une fois qu'on a fait nos beaux rapports, tout ça, j'aimerais l'avoir sur mon téléphone, sur ma tablette, sur mon iPad, sur ma Surface et tout. Blablabla. Et donc, c'est là on va passer donc, dans ce qu'on appelle Power BI Mobile App. Donc, dans les stores, les différents stores, hein, iOS, Android, Windows, on peut trouver l'application Power BI Mobile App.
Donc moi sur mon téléphone Android, je peux faire du Power BI.
Si tu veux, tu peux interroger.
Mes vendeurs ukulélés.
Exactement. Donc d'ailleurs, je t'invite à télécharger l'appli tout de suite maintenant, avant la fin de ce podcast.
Et je l'ai éteint pour le podcast.
On rallumera après. Surtout, c'est un beau. T'as quoi comme téléphone là ?
Un OnePlus 2.
Ouais. Et ben, il est plutôt joli. Il est plutôt pas mal. Alors, Power BI mobile app. Mobile. Alors tu vas rigoler. Celui pour Windows 10 mobile est arrivé il n'y a pas très longtemps.
Et bien voilà, comme Windows 10 mobile vient d'arriver aussi, ça tombe bien.
Donc ça arrive, il est là, donc il vient d'arriver. Donc tout n'est pas encore possible à faire contrairement sur les autres plateformes, mais déjà tu as la possibilité bien sûr d'afficher tes dashboards, mais après tu peux même dire ce dashboard là, je veux le mettre directement sur ma page d'accueil. Tu peux avoir sur ta page d'accueil ton téléphone pour ton dashboard.
Dans une tuile dynamique.
Voilà. Donc tu peux directement l'avoir.
C'est l'avantage de Windows 10 mobile par rapport aux autres.
Et si dans ton Power BI service, tu as planifié les mises à jour, automatiques, par exemple une fois par jour, deux ou trois fois, et ben l'appli mobile de Windows 10 mobile saura justement aller chercher aussi ces mises à jour. Et ça c'est plutôt pas mal. Tu auras la mise à jour automatique des données.
Des tuiles.
D'après ce que j'ai compris, ça j'ai pas testé, de tout.
D'accord. Ok.
Donc ça, encore une fois, c'est en version bêta, à prendre avec des pincettes, mais c'est ce que j'ai cru comprendre. Les autres versions ne sont pas oubliées, donc d'accord. Donc il y a la partie iOS. Alors, il y a... je vais parler de quelque chose qu'on verra à la fin de ce podcast. Mais, ouais, donc je ne sais pas, ça serait forcément mordu un peu la queue, tout ça. Mais la version iOS va... supporter ce qu'on appelle les mobile reports, les mobile reports. Qu'est-ce que les mobile reports ? C'est tout simplement les rapports mobiles qu'on va pouvoir créer avec la nouvelle version d'SQL Server 2016 et plus précisément avec Reporting Server 2016. Avec Reporting Server 2016, maintenant on pourra faire des rapports mobiles qu'on va pouvoir publier sur des rapports sur des serveurs type Reporting Services et on saura s'y connecter avec l'appli iOS. Donc pour ceux qui utilisent Power BI sur un iPad ou sur un iPhone, sur l'iPad, quand vous le lancez maintenant, il vous dit est-ce que vous voulez vous connecter à Power BI ou à Reporting Services. Donc il pourra supporter les mobile reports.
D'accord.
Ce qui est plutôt pas mal. Et puis support des pages, donc on pourra maintenant épingler. Je parlais tout à l'heure sur Power BI Service pour être bien clair là, parce que je sens que j'étais pas clair. Je disais tout à l'heure dans Power BI Service, on pouvait épingler l'ensemble d'un rapport directement dans le dashboard. Et bien l'appli iOS le supporte. L'appli mobile pour Windows 10 ne le supporte pas encore, ça va arriver, mais ça le fait pour l'appli iOS.
D'accord.
Est-ce que c'est clair? Parce que je vois que tu me regardes.
Comme sur le dashboard, on peut épingler des rapports.
Voilà, on peut les lire. Si jamais tu as fait un dashboard qui contient un rapport épinglé complet, l'appli iOS saura le lire.
Saura lire le dashboard.
Le dashboard qui contient
un
rapport piné, épinglé directement. Et sur Android, il y a une petite mise à jour, donc l'appli Android qui supporte les QR codes. Donc, je voulais le dire. Alors, je ne l'ai pas testé, l'appli Android. J'ai testé celle sur iOS, mais pas Android. Donc, voilà. Donc, c'était le support des QR codes. Je n'ai pas essayé. Mais bon, c'est là.
Ouais. Moi, je n'ai pas la moyenne d'avoir de l'iOS, donc j'ai de l'Android. Mais...
Donc, voilà. Bon, en plus, je n'ai pas les moyens. On me l'a prêté, attention. Non, je veux démystifier tout ça. Donc, voilà ce que je voulais lire sur
la partie mobile.
Donc, là, on a vu tout ce qui était Power BI.
Ouais, donc toutes les nouveautés qui sont sorties, somme toute, très récemment. Hein.
Oui, voilà, je me suis limité à un mois. Donc si j'avais dû faire les 3 mois depuis la dernière fois qu'on s'était vu, je pense qu'il y en aurait eu pour beaucoup plus. Mais là, ça fait déjà, je pense, une bonne vision des choses.
Ouais, tout à fait. Bon, ben super. Donc une fois qu'on a vu Power BI, donc tout l'aspect data visualisation, quoi, tout l'aspect belle démo et tout ça. Derrière tout ça, il y a des moteurs de base de données qui supportent toutes ces données. Et donc, des nouveautés concernant SQL Server.
Exactement. Donc, je voulais t'en parler un petit peu durant ce podcast. Alors, il y en a beaucoup, des nouveautés concernant SQL Server 2016, mais il y en a 2-3 que j'ai trouvé sympas, dont je voulais te parler, que j'ai regardé, que je n'ai pas forcément testé. Celle que j'ai testée, on en a parlé la dernière fois, c'était la notion de stretch table, les tables étendues, de pouvoir avoir une table où tu dis sur cette table les données chaudes restent chez moi et les données froides sont dans une base Azure SQLDB. Et pourtant, quand je la requête, je fais une requête classique, c'est complètement transparent. Donc, ça permet d'étendre, de faire une sorte d'hybride quelque part. Donc, juste, il faut savoir que aujourd'hui, donc SQL Server 2016 est en CTP 3.2. Cette CTP 3.2 apporte surtout beaucoup de nouveautés côté reporting services qu'on va parler à la fin de ce podcast. Mais là, je vais prendre quelques instants pour parler de 2-3 choses.
Donc CTP 3.2, Technical Preview, c'est ça?
C'est ça, ouais. Community Technical Preview, je crois. Ouais, ouais. Le C, j'ai un doute d'un coup là, mais l'ETP, c'est ça, Technical Preview.
On a une idée de quand ça sortira?
J'ai une idée, mais je ne sais pas trop si j'ai le droit de le dire en fait. Moi, je vais dire en gros.
Dans l'année 2016
L'été
2016. Super, c'est bientôt.
Donc ça, non, puis là, déjà, la CTP3, on peut déjà faire pas mal de choses intéressantes. Première chose dont je voulais parler, donc en plus, il y a eu un article qui est sorti sur MSDN il n'y a pas longtemps, les temporal tables, les tables temporelles. En fait, rapidement, c'est quoi? Ça permet d'aller requêter tes données, si tu le désires, pour voir dans quel état étaient tes données dans un temps bien précis. En clair, tu peux faire un select mes produits from début du mois to fin du mois. Donc tu peux définir des plages de temps. Ouais. Et là, il va te dire tes données dans cette plage de temps étaient dans cet état-là. Ça peut être intéressant dans les cas des scénarios type audit. Tu veux faire un audit, tu peux choisir une plage de temps. D'accord, tu peux choisir une date, donc il va y avoir des nouvelles clauses qui vont apparaître. En clair, rapidement, comment ça marche, donc j'ai regardé un petit peu. En fait, quand tu vas créer une nouvelle table, tu peux dire qu'elle va être de type temporel, ou tu peux même transformer une table existante en table temporelle. D'accord ?
D'accord. Il faut l'avoir prévu à l'avance.
Pas forcément. Une table qui existe déjà, tu peux la transformer en table temporelle.
Oui.
Voilà.
Oui, d'accord, continue.
D'accord, parce que je vois encore une fois, tu me regardes bizarre.
J'essaie de comprendre.
Ouais, non, mais il n'y a aucun problème.
C'est-à-dire que si je veux requêter des données dans le passé, il faut que la table soit temporelle depuis une date antérieure.
Ah, bien sûr, bien entendu. Voilà. C'est à partir du moment où tu as transformé temporelle.
Il faut avoir stocké l'historique, quoi.
Il y a un minimum. En fait, voilà, finalement, tu as dit le bon mot, il faut pouvoir stocker l'historique. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer? Il va créer 2 tables. Donc, tu auras ta table avec les actuelles. Et puis pour toi, de manière transparente, il va créer cette fameuse table d'historique. D'accord ? Et c'est quand tu vas la requêter, qui en fonction des clauses que tu vas mettre, donc c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle clause qui arrive, il va soit taper dans la table actuelle, soit dans la table historique. Et typiquement, tu as des nouvelles clauses comme as off, d'accord ? Select étoile from as off, et tu vas définir une date time. D'accord ?
Un peu comme un snapshot.
Ouais, on peut voir ça comme ça. Ouais. Tu auras from to. Tu auras la clause between, par exemple, ce genre de choses. Content in.
D'accord.
Ce qui pourrait être pas mal. Et donc, après, moi, j'essaie de voir en termes de, justement, de datavis, de ce qui peut être possible de faire avec ce genre de solution. Si on veut faire des rapports, justement, des rapports d'audit sur des périodes de temps, ça peut être intéressant, justement. On définit des dates et boum, on va taper sur les tables temporelles. C'est des choses qui peuvent être intéressantes à creuser. Donc, ça, voilà, c'est pour ça que je voulais partager ça avec vous. Une autre fonctionnalité qui arrive, ça s'appelle Always Encrypted. C'est-à-dire que la donnée est tout le temps chiffrée, à l'exception au moment où elle arrive sur l'application cliente qui consomme ces données. Ça veut dire que même dans la base de données, l'information est cryptée. Ce qui fait que si je lance mon management studio en tant qu'administrateur sur la base de données, je ne vois pas l'information, elle reste cryptée. On avait déjà tout un tas de mécanismes, on avait les TDE, Transparent Data Encryption, qui permettaient de faire ça, mais la donnée était décryptée quand elle montait en mémoire, lorsqu'elle montait, justement. Là, non, là, elle va rester cryptée tout le temps. Et elle va être décryptée côté client. D'accord ? C'est-à-dire que donc ça va être un nouveau provider hein, qui va arriver donc, côté client. Et lorsqu'on va faire la requête, même au niveau de la requête, les informations seront toujours encryptées. Et ce moment de la décrypter, où ton provider va aller chercher la clé pour décrypter l'information dans un espace protégé, typiquement dans un Azure Key Vault, il va chercher la clé là-dedans, faire le décrypter et te donner l'information lisible sur ton appli cliente. Et ça, c'est plutôt pas mal. On garantit l'encryption sur l'ensemble de la chaîne. Ça encore, c'est quelque chose que j'ai prévu de regarder. Mais ça a l'air très prometteur et très intéressant pour faire une protection de données de bout en bout.
Ok. Ce serait pas mal qu'on en reparle, ouais. Qu'on en reparle plus tard.
Donc ça, voilà, je suis tombé sur l'article. Il est tout récent. Je voulais quand même t'en donner un mot. J'ai regardé rapidement. Ouais. Mais voilà, c'est pour...
Ok, donc du chiffrement de bout en bout, l'utilisation d'Azure Key Vault pour la sécurisation de la clé de chiffrement. Donc on est dans un scénario plutôt Azure, hein, si on utilise Azure Key Vault.
Ouais.
Okay.
Alors Azure Key Vault ça peut être autre chose, mais je pense que là l'Azure Key Vault peut être intéressant dans ce cas-là. C'est quelque chose que tu maîtrises ça, l'Azure Key Vault.
Pas du tout, mais dans certains scénarios, je connais certains scénarios qui l'utilisent.
Donc voilà, ça
par exemple le chiffrement de disque dans Azure.
Ouais.
Où tu vas demander à ce que le disque soit chiffré sur une machine virtuelle Windows, ça va être du BitLocker, avec la clé stockée dans Azure Key Vault. Par exemple.
D'accord. Écoute, il y a le scénario SQL qui arrive, ça vaut le coup de regarder.
Ouais, tout à fait.
On va regarder ça. Et puis bien sûr, je ne pouvais pas m'empêcher de vous parler encore d'Ataviz, mais côté SQL Server. Donc plutôt une solution ce coup-ci sur site. D'accord ? Si jamais tu es dans le cas où moi je veux rien dans le cloud, où je veux maîtriser de bout en bout l'ensemble de ma chaîne de Ataviz jusqu'au serveur. Mm-hmm. SQL Server 2016 saura faire ça. Il faut savoir que nous avons fait l'acquisition l'année dernière d'un partenaire qui s'appelait DataZen, d'accord, qui permet donc une solution de dashboarding et de design de dashboard de manière très, très aisée. Je te montrerai, même toi, tu vas arriver à faire des choses qui envoient, comme on dit. D'accord. Et ça, c'est en train d'être complètement intégré avec SQL Server 2016. D'accord. Et ce qui fait qu'on va arriver avec une solution de reporting et de dashboarding complète, aussi bien pour faire des rapports type paginés, comme on connaît déjà avec Reporting Services, mais aussi des rapports responsive mobiles, designés pour les mobiles, avec la même solution. Ce que l'on voit profiler aujourd'hui, ça, c'est pas encore très clair, c'est qu'il y aura toujours le report builder pour ceux qui connaissent, et puis il y aura un nouveau designer qui s'appelle, Mobile Report Publisher. Donc, qui est maintenant téléchargeable en version préliminaire et sur lequel on peut déjà commencer à faire des rapports. Pour ceux qui connaissaient DataZen Publisher, c'est quasiment la même chose en termes d'interface et la philosophie est la même, ce qui fait que c'est quelque chose qui reste de manière très très simple.
D'accord.
Donc, Reporting and Services va intégrer donc cette notion de ce qu'on appelle des mobile reports, d'accord, donc ces fameux reports mobiles, en plus des rapports qu'on a l'habitude de faire avec Reporting Services, d'accord. Et c'est vraiment fait pour la création de rapports dits responsive, hein, qui vont s'adapter en plus en fonction du device sur lequel tu vas consulter.
À la taille de l'écran, ce genre de choses.
Voilà. Donc comme je l'ai dit, Mobile Reports est basé sur DataZen. Donc Mobile Report, c'est intégré à Reporting Services. Hein. Je le reprécise parce qu'on parle de Mobile Report, Reporting Services, il y a des noms un peu qui arrivent dans tous les sens. Tout est dans la même solution, hein. Tout est dans Reporting Services. Ce qui fait que le portail que vous connaissez, slash report, hein, le nom de la machine slash report ou slash report server, oui. Va évoluer. Aujourd'hui, si jamais vous l'installez, alors c'était 3.2, par défaut, vous arrivez sur l'ancienne interface et vous aurez un lien vers la nouvelle interface du report server, d'accord, qui va intégrer justement cette notion soit des rapports paginés comme on avait avant, mais aussi les mobile reports. Et comme on se base sur l'acquisition de data Zen, on saura aussi afficher et créer directement depuis ce portail les KPI, les Key Performance Indicators ou les indicateurs clés de performance. On saura les créer directement à partir de cette interface. On aura un look assez sympa, du moins de ce qu'on commence à voir, pour la création justement de rapports un peu plus modernes, vu que c'est une solution qui n'a pas beaucoup évolué depuis SQL Server 2008 R2. Il y en a même qui nous demandaient, bah alors c'est mort, Reporting Services. Ils disent, non, ça, c'est un peu en roue libre, c'est vrai, mais ça continue à faire le job, qu'il faisait très bien. Et là, donc, il y a vraiment un gros coup de boost avec cette version 2016 d'SQL Server. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'outil de création pour les rapports mobiles, c'est Mobile Report Publisher. On peut maintenant le télécharger. Donc, sur le site MSDN Microsoft, on peut le télécharger si on veut commencer à jouer avec. Et c'est très proche de DataZen Publisher, comme je disais tout à l'heure. Et puis, bien entendu, hein, ces rapports-là peuvent vraiment être disponibles à terme dans les applications type Power BI. Et d'ailleurs, on l'a évoqué tout à l'heure, comme je disais tout à l'heure, je ne sais pas dans quel sens le mettre.
And the bucket is bucket.
Exactement. Et donc, c'est déjà maintenant disponible dans l'application iOS qui comporte déjà cette fonctionnalité-là dans sa version préliminaire.
Donc, la Power BI mobile app pour iOS.
Pour iOS, permet déjà de consulter ce type de rapport.
D'accord. Magnifique.
Est-ce que j'ai été clair?
Je crois, oui. Pas mal de nouveautés donc, qui concernaient à la fois Power BI et SQL Server. Écoute, Franck, y a des nouveautés à attendre bientôt là, dans ce monde-là ou... À la sortie du SQL Server, donc, tu nous as dit pendant l'année 2016. Ouais. En 2016, on va avoir le serveur. Windows Server 2016, on va avoir donc un nouveau SQL Server.
Exactement, donc nouveau moteur, nouvelle fonctionnalité au niveau du moteur, d'autres scénarios avec le cloud, donc le cloud hybride, et pas mal de choses aussi sur la partie data visualisation. Et puis les nouveautés côté Power BI, c'est une application agile hein, qui évolue très régulièrement, et donc les nouveautés arrivent un peu au fil de l'eau. Je ne sais pas un peu ce que tu dis, DevOps, je ne sais pas quoi là.
Voilà, ça ressemble à ça.
Ça ressemble à ça. Mais là où c'est très intéressant, c'est que notamment les équipes, tout ce qui est Power Query pour les nouveaux connecteurs, ils sont très très dynamiques. Et donc on a beaucoup beaucoup de nouveaux connecteurs qui arrivent de manière très très fréquente.
Alors tu sais qu'on a, dans notre direction d'une division DX, là on a une partie marketing.
Ouais.
Et qui font des communications sur des thèmes particuliers chaque mois. Et puis le mois de février est consacré à la data, aux données.
D'accord.
Et donc, il y aura pas mal de communications faites autour de ton thème de prédilection. Et notamment, on va essayer de faire quelques petites vidéos de démonstration pour avoir des supports un petit peu plus visuels qu'aujourd'hui.
Donc, c'est une invitation que tu me lances, là.
Tout à fait.
Invitation acceptée.
Est-ce qu'on aille devant une caméra et puis que tu nous montres des choses.
Exactement. Vu que ça fait 3 mois que tu m'évites, maintenant, si tu m'invites, je viens.
Et puis comme il y a aussi quelque chose qui s'appelle les tech days online, enfin on ne sait pas encore le nom que ça aura, mais
il y a quelque chose qui se profile.
Il y a des choses qui se profilent bientôt. On en reparlera
avec plaisir.
D'ici quelques semaines également, il y aura pas mal de choses à montrer. Donc à très bientôt, Franck.
Très bientôt,
merci
Pascal.
Beaucoup.
À bientôt.
Merci à tous. Et puis à